France Info.
Les informés, bienvenue si vous nous rejoignez à la radio ou sur le canal 27, sur le canal 27 de la TNT. Alors je vais vous résumer la situation. Vous êtes probablement assis confortablement dans votre canapé ou mieux encore coincé dans les embouteillages en départ de week-end ou peut-être même en vacances. Si vous faites partie de ces heureux vacanciers de la zone C, eux, ils ont travaillé tout l'après-midi, ils ont tapoté frénétiquement leur ordinateur compulsé de vieux grimoires pour être au top ce soir. Ce sont les informés que je vais vous présenter, en commençant par Swazik Kemener. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Rédactrice en chef du service politique de Marianne, à côté de vous, Gérard Filoche. Bonsoir.
Bonsoir.
Membre du bureau national du Parti Socialiste, Guillaume Jubin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un communicant associé du cabinet Tilder. Et puis Éric Scholl. Bonsoir à vous, Éric.
Bonsoir.
Directeur de la rédaction de Courrier International. Alors, je ne vous cache rien, on avait décidé de commencer les informés en parlant de cette attaque, évidemment, ce matin au Carrousel du Louvre. Mais il se trouve que François Molins, le procureur de la République de Paris, l'homme le mieux informé sur cette affaire, puisqu'il est chargé de cette affaire, va s'exprimer tout à l'heure. Ce sera sans doute aux environs de 20h30. On suivra cette conférence de presse en direct et on en débattra juste après. Heureusement, pour commencer, nous avons la politique. Et l'affaire François Fillon, je sais que vous brûlez d'en parler. François Fillon, et c'est l'actualité de ce soir, qui a posté une petite vidéo sur son compte Facebook. Regardez, écoutez.
J'éprouve une colère froide face à tant de bassesse, à tant de calomnies, à tant de mensonges. Et pourtant, je resterai inébranlable. Car vous le voyez bien, vous le sentez bien, tout cela dépasse infiniment ma personne. C'est le projet que nous représentons qui est aujourd'hui ciblé. Ce sont les valeurs que nous incarnons qui sont attaquées. C'est notre victoire qu'on veut nous voler. Pas une victoire pour nous, mais une victoire pour la France. Voilà pourquoi je vais me battre de toutes mes forces. Je vais me battre contre un système qui, cherchant à me casser, cherche en réalité à vous briser, à briser votre force, à briser cet élan qui s'est levé en novembre dernier.
Comment vous le trouvez, Swazik Kemener, ce soir ?
Ben, on voit bien qu'il a pris sa décision, François Fillon. Alors, est-ce qu'il a vraiment douté ? C'est même pas sûr. Il y a des doutes qui se sont élevés toute la semaine dans son camp. Ça avait même commencé la semaine. Il a pris sa décision.
Quelle décision ?
Il continue. C'est-à-dire que la question, c'était stop ou encore, hein, puisque depuis le début de la semaine et même avant la fin, à la fin de la semaine dernière, tout le monde ne parlait que du plan B. Comment on va remplacer François Fillon ? Comment la droite se demandait comment elle allait pouvoir éjecter ce champion de cette primaire incroyable avec 4,4 millions de votants ? Il ne pensait qu'à ça. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire ? Il dit « Je suis installé, je suis accroché, j'y suis, j'y reste, et bien malin celui qui arrivera à me déloger. » C'est ça qui est en train de se passer. Il est en train, évidemment, d'utiliser tous les arguments qu'utilisait Nicolas Sarkozy à sa grande époque, c'est-à-dire la calomnie, on m'attaque. Il essaie d'amener son camp à se mettre derrière lui, en sachant que ça va être très compliqué quand même, parce que sur le terrain, on l'a vu encore lors de sa visite à Charleville-Mézières, c'était hier soir dans les Ardennes, c'est très très compliqué, on entendait une bronca même à l'intérieur du meeting, parce que les gens commencent à se demander sérieusement ce qu'il a pu faire et surtout comment il pourrait être candidat à la présidentielle.
Et Guillaume Jubin, avec votre œil de communicant, comment vous jugez cette vidéo et puis même un peu au-delà, la stratégie de communication de Fillon ?
Il est, avec cette vidéo, encore dans une mauvaise stratégie de communication, puisqu'on voit bien d'une part qu'il ne parle pas aux Français, or le problème est un problème qui concerne les Français et pas uniquement les militants de l'UMP. Il ne montre pas qu'il a compris qu'il y avait un problème dans l'opinion avec finalement la contradiction entre la stature qu'il a construite et les faits dont on parle. C'est pas une question de légalité, c'est une question d'opinion et de communication. Il n'a pas montré aux Français qu'il avait compris que les Français, justement, avaient un problème avec la situation qui est la sienne. Et c'est bien là le sujet ce soir, cette vidéo qui s'adresse aux militants et pas du tout aux Français, qui se pose sur un terrain qui est totalement extérieur au problème dont on parle, à savoir l'incompréhension dont font preuve les Français à son égard. Il n'y répond pas. Donc pour moi, il reste dans la séquence de communication et quelque part, il s'enfonce dans ce sillon qu'il a commencé à creuser en niant finalement toute réalité au problème, en s'enfonçant dans un problème, en le mettant sur le terrain judiciaire, alors que c'est pas une question judiciaire, c'est pas une question, même si les faits qui lui sont reprochés sont dans la légalité, il devra s'expliquer sur une pratique qui, pour tous les Français, n'est plus admissible.
Gérard Filoche, je suis sûr que vous allez voler au secours de François Fillon.
J'éprouve une colère froide. Je veux dire qu'il se rend compte de rien. La moitié des Français gagnent moins de 1 700 euros. On a 8 800 000 Français en dessous de 900 euros. Comment ils peuvent apprécier 1 million d'euros que cet homme a pris? Il ne sait même pas ce que ça veut dire, probablement, pour sa femme, ses enfants, etc., sur le budget de la République. Pour un travail, tout le monde voit, il n'y a même pas besoin de commenter, je ne suis pas juge, mais tout le monde...
Alors, petit peu quand même, quoi.
Non, on voit les faits. Et on écoutait sa femme parler, on regarde, ça ne l'effleure pas que c'est un problème. Il épère la rigueur pour les autres. Il dit que la France est en faillite. Et lui, il se sert. Et donc, en vérité, comment voulez-vous que ça se termine? Par un clash. Il est en déphasage complet avec notre société. Moi, quand j'étais inspecteur du travail, on m'avait demandé une fois l'autorisation de licencier une déléguée du personnel là dans un Monoprix côté Saint-Paul parce qu'elle avait mangé 2 croissants et qu'ils n'étaient pas bien démarqués. On a dit, c'est pas les croissants démarqués, c'est les bons croissants que t'as mangés ce matin. Donc, c'est du vol et on te demande, tout le monde a vu le film avec Vincent Lindon, la loi du marché. Pour les petites gens, ils seraient déjà virés pour même pas un soupçon. Dans n'importe quelle entreprise, on vous vire pour 1/1000 de ce que fait Fillon. Et l'autre, il est là, il veut être président de la République, il veut s'installer devant 66 millions de Français avec son château dans la Sarthe. Avec l'argent pour ses enfants qui sont pas avocats, avec sa femme qui l'assiste ou qui ne l'assiste pas, et lui insulte les assistés. Il veut que les gens se serrent la ceinture. Il veut qu'on répare pas les petits risques de la sécurité sociale. Il veut qu'on bloque les salaires. Il veut pas qu'on augmente le SMIC. Et ils sont dans un monde qui est même pas celui de la vie réelle
alors,
de notre pays.
Gérard Filochon, on vous a bien compris.
Vous avez bien compris ma colère froide.
Éric Scholl, je vais vous donner la parole, mais d'abord il est 20h10 sur France Info. Et l'info, c'est avec Diane Ferchit.
Plusieurs perquisitions, dont une à Paris après l'attaque contre des soldats ce matin au carrousel du Louvre. 4 militaires de l'opération Sentinelle ont été pris pour cible par un homme armé d'une machette. L'agresseur serait un Égyptien arrivé en France le 26 janvier dernier en provenance de Dubaï. Il avait pris un vol retour pour le 5 février. L'homme a légèrement touché l'un des soldats à la tête avant d'être grièvement blessé par les tirs de riposte de la patrouille. Les vents vont encore s'intensifier cette nuit dans l'ouest. La Gironde, la Charente et la Charente-Maritime seront en alerte rouge à cause des tempêtes. Alerte qui débutera à 5h demain matin. Les établissements scolaires de Gironde resteront fermés demain. 14 autres départements de la Vendée à la Loire et jusqu'aux Landes sont en vigilance orange. Soyez extrêmement prudents, la chute d'un mur a entraîné aujourd'hui la mort d'une femme à Nantes. Circulation difficile ce soir sur l'autoroute A13 au niveau de Rocancourt dans les Yvelines dans le sens Paris-Province. En cause un spectaculaire carambolage entre un poids lourd et 10 voitures. Avec le début des vacances d'hiver pour la zone Cébise, on futé voie orange en Ile-de-France dans le sens des départs ce soir. Demain, ce sera rouge en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes en direction des stations de ski. Made for sharing, venez partager. C'est le slogan de la ville de Paris pour sa candidature en vue des Jeux Olympiques de 2024. Il a été dévoilé ce soir. Le départ de la course est lancé. Les dossiers de candidature de Paris et de ses concurrents sont à présent sur le bureau du Comité international olympique à Lausanne, en Suisse. Et puis un mot de la Ligue 1 de football, début de la 23e journée. Metz reçoit Marseille ce soir. Coup d'envoi à 20h45.
France Info. 20h-21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et on parle de l'affaire Fillon encore ce soir dans les informés. On vient d'entendre le réquisitoire de Gérard Filochon. Je me tourne vers vous, Éric Scholl. Si François Fillon ne veut pas se démettre, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, on ne peut pas faire grand-chose. En réalité... Il y a 2 logiques là qui s'affrontent et toutes les deux peuvent se réclamer de l'éthique. Il y a au nom de la morale, on peut se dire tiens, il faudrait qu'il s'en aille. Et voilà, c'est un peu
ce que dit Gérard Filochon.
Mais au nom aussi de cette fois-ci de l'éthique, on peut considérer qu'il a été élu à la primaire. Il a même été très bien élu par plus de 4 millions de participants. Et donc au nom de l'éthique, il faut respecter cette primaire. Et c'est évidemment la logique de François Fillon. Et c'est très compliqué de le dissuader, de l'en faire sortir. Si on, maintenant, pour des arguments politiques, on considère que l'argument politique devrait le faire sortir pour choisir un autre candidat, comment fait-on? Ça n'a pas été prévu par les primaires. Et donc, on est là, en train de regarder la Constitution. J'ai vu que des constitutionnalistes étaient penchés sur l'article 7 de la Constitution qui peut prévoir éventuellement un empêchement...
Retarder l'élection présidentielle.
Mais c'est très compliqué, ça peut pas se faire maintenant, ça peut se faire uniquement avant le dépôt, juste pendant les quelques jours, la semaine qui précède le dépôt des listes, où on pourrait peut-être invoquer cet argument de l'empêchement que ça soit d'ailleurs pour des raisons juridiques, des raisons de maladie, etc., où là, on pourrait reporter ou trouver une autre solution.
C'est crédible, soit dit Kemener ?
De décaler la présidentielle, oui. Je pense pas que ça arrivera. Là, ce qui est sûr, c'est que François Fillon, il a décidé de tenir. Il y a une date butoir, c'est le 17 mars pour le dépôt des parrainages à la présidentielle. Et puis après, c'est fini. C'est-à-dire que bah, si c'est pas lui, il y a plus de candidats de la droite et du centre. Donc c'est ça, il est en train de faire un chantage à son propre camp. C'est ça qui est en train de se passer ce soir. C'est qu'il arrive et qu'il dit effectivement, Éric Scholl le disait très bien.
C'est pour ça qu'il disait, laissez-moi 15 jours.
Mais là où il a raison, c'est qu'il est en situation, il paraît fragilisé et en réalité, c'est lui qui a la maîtrise du calendrier.
Et il a autre chose. François Fillon, il a l'argent. C'est-à-dire qu'il a l'argent de la primaire, une partie lui a déjà été reversée, 6,5 millions. Donc ils ont commencé à tourner ça dans tous les sens, évidemment. Est-ce qu'on fait revenir Juppé? Est-ce qu'on peut faire revenir Juppé? Parce qu'ils ont besoin d'un candidat de substitution. Pourquoi? Il ne faut pas oublier qu'on est après cinq ans, de mandat de François Hollande. Ils ont une envie d'alternance très forte. Donc ils sont en train de voir comment ils peuvent faire pour espérer encore peut-être, même si la victoire s'éloigne. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Je vous dis pas que c'est un bon raisonnement, mais c'est ça qui est en train de se passer dans la tête des gens de droite aujourd'hui.
Guillaume Jubin.
Oui, tant qu'il reste sur cette stratégie de communication qui est de déni finalement du problème, comme tout le monde le partageait dans l'opinion, il va continuer à se battre contre une machine médiatique qui va continuer, et au final il sera obligé de renoncer, puisqu'il ne pourra pas avoir raison seul contre l'ensemble d'un système où au final il terminera d'ailleurs dans les sondages avec une baisse et une pression d'ailleurs de son propre parti qui finira par lui demander de s'en aller.
Il va devoir renoncer, Éric Scholl ?
S'il garde cette posture, je pense que oui.
C'est assez compliqué parce que les sondages, effectivement, il y a des nouveaux sondages qui sont sortis aujourd'hui, il perd. Je vais pas dire qu'il dégringole, mais il recule quand même nettement. Et puis on voit, et d'ailleurs c'est assez intéressant parce qu'on voit que les voix qu'il devait récolter partent. Se partage aujourd'hui chez Macron qui monte mais aussi chez Marine Le Pen qui monte. Et notamment en particulier les voix qui étaient des sarkozystes au départ et qui se vont vers Marine Le Pen.
Peut-être que son pari
c'est de se dire qu'à un moment il va réussir lui, c'est ce qu'il essaye de faire croire, qu'il va sortir de ces tourbillons et qu'il va pouvoir se récupérer politiquement. Ça paraît de plus en plus compliqué.
Soit-y, quelle manière les sondages ont joué un rôle.
Alors, il y a un sondage qui a joué un rôle, c'est le sondage Elabe pour les Échos de mercredi matin où pour la première fois Emmanuel Macron était au second tour et donc conséquence vaste communicant, François Fillon n'y était pas. Donc ça a été un coup rude pour son camp, mais on était quand même dans la marge d'erreur. Mais il y a un autre sondage, d'ailleurs, de chez vous, ce matin, au Doxa France Info, qui dit que 68% des sympathisants de droite hors FN continuent à juger qu'il a raison de tenir bon. Donc c'est à ça qu'il s'accroche François Fillon, parce que faut pas oublier que dans ce logiciel, il est toujours le candidat de la primaire. Il a jamais changé de posture.
Il est toujours
dans sa logique de primaire. Donc il est enfermé dans cette logique. Donc il regarde ça. Je pense que ce chiffre, il a dû le trouver extraordinaire. Il est très content et il continue. C'est la marche vers l'abîme. Un peu.
Voilà pour François Fillon. Mais quelque chose me dit qu'on risque de débattre à nouveau de la candidature de François Fillon dans les informés.
Et de l'argent dans la présidentielle aussi. Parce que j'ai cru lire, je ne suis peut-être pas assez informé dans le détail, mais que même le trésorier de l'UMP se plaignait parce qu'il siphonnait l'argent qui arrivait dans son micro-parti, François Fillon. C'est-à-dire que ça ne va pas dans les caisses officielles de l'UMP, mais dans ces caisses. C'est un point d'interrogation géant qui est surgi dans ma tête. Et après, on me dit que Macron monte. Mais Macron monte avec quoi aujourd'hui?
Il monte avec les déçus du fillonisme.
Oui, mais enfin, avec beaucoup d'argent. D'où vient l'argent? On va avoir un deuxième scandale, non, avec Macron?
J'aimerais qu'on passe au deuxième thème de ces informés. Ce soir, on aime bien la politique. Le programme du week-end, vous le connaissez. Benoît Hamon était en Lorraine ce matin. Demain, Emmanuel Macron, votre ami Gérard Filoche, sera en meeting à Lyon. Marine Le Pen sera aussi à Lyon. Jean-Luc Mélenchon, lui, fait encore plus fort que tous les autres.
Le 5 février, je vais faire une première mondiale. Je vais me dédoubler. Je serai présent à Lyon, personnellement et physiquement, et je serai présent à Paris, grâce à un hologramme. Vous allez donc assister, le 5 février, au premier meeting holographique, en direct, du monde.
Gérard Filoche, vous allez suivre ce meeting holographique ?
Oh, c'est bien, ça me plaît. Et puis, comme je suis pour l'unité entre mon ami Jean-Luc Mélenchon, mon ami Benoît Hamon et mon ami Yannick Jadot, je suis tout en ce moment pour voir les points communs qu'il y a dans leur programme et j'en trouve de plus en plus.
Bon, mais ça sert à quelque chose, un meeting, sachant que les gens qui vont au meeting sont des gens qui sont pour la plupart déjà convaincus par le candidat.
Ben, d'abord, les caméras viennent, et ensuite, les images sont reprises sur les télévisions, ensuite, elles sont reprises sur les réseaux, et ensuite, les militants qui ont participé au meeting ont appris des choses quand même, parce qu'ils s'y disent des choses, et après, ils peuvent les répéter, et ça fait boule de neige. C'est assez classique, mais vous savez, moi, je milite depuis une cinquantaine d'années, j'ai commencé avec une Renéo. Vous savez, les gens connaissent pas bien les Renéo. Mmh.
Avec une manivelle.
Voilà, c'est ça. Avec un stencil. Et puis, ça dure un millier d'exemplaires.
Et puis, vous êtes passé à la photo.
Voilà, maintenant, j'appuie sur mon tweet et d'un seul coup, j'ai 40 000 followers, c'est comme ça qu'on dit, qui écoutent. Mais quand vous avez aussi 10 000 personnes dans une salle, ils en ressortent avec une idée qu'ils ont envie de se battre. Donc, les meetings ont un rôle. Ceci dit, je suis pas trop pour les grandes messes. Je suis pour des milliers de meetings différents. Je suis pas non plus pour les tracts à 40 millions d'exemplaires. Je suis pour que les sections, les fédérations, les groupes, les associations puissent avoir l'initiative de tracts. Parce que pour qu'il y ait une bonne campagne, il faut qu'elle parte du bas de façon vivante, constructive.
Guillaume Jubin, ça sert à quelque chose en 2017?
Moi, je ne crois pas. Je crois justement que ça ne sert plus à rien. Et l'exemple de François Fillon le prouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français attendent qu'on parle aux Français et pas aux militants. Or, aujourd'hui, quand vous êtes dans un meeting, vous parlez à vos militants. Mais c'est les Français qui vous écoutent, parce que, comme vous venez de le dire d'ailleurs, ce qui se passe dans un meeting ressort immédiatement à l'extérieur, parce que les caméras sont là en permanence, on n'est pas entre soi, on est avec tout le monde. Or, en parlant aux militants, on parle pas aux Français. Et ça, je crois qu'il y a un grand décalage, c'est ce qu'on voit bien. François Fillon, ce soir, il parle aux militants qui pensent qu'il doit rester dans la ligne qui est la sienne. Pour autant, les Français sont pas du tout dans cette
logique-là. Et il parle sur Facebook.
Et il parle sur Facebook. Donc, exactement de la même façon qu'un meeting. Aujourd'hui, dans un meeting, vous parlez à vos militants, sauf que c'est les Français qui vous écoutent et qui ne comprennent pas le discours.
Je peux me permettre. Vous voyez que l'image, vous. Moi, j'ai fait 160 meetings contre la loi El Khomri l'année dernière. Mais pour décortiquer la loi El Khomri, il faut parfois une heure et demie. Vous avez 50 articles. Moi, je sais décortiquer. C'est-à-dire, je prends chacun des articles et j'explique aux gens. Et je vous assure que quand ils ont écouté le décortiquage, mais c'est un meeting.
Vous allez
quand ils ont écouté le décortiquage de la loi El Khomri,
vous allez
comprendre que c'est une loi scélérate et son compte.
Guillaume Jubin, mais d'abord, il est 20h20 sur France Info. L'info, c'est avec Diane Ferchit.
Attention au vent violent sur la façade atlantique. 14 départements de la Vendée jusqu'à la Loire sont en vigilance orange. 3, la Charente-Maritime et la Gironde seront en alerte rouge cette nuit. Dans les terres, les rafales pourront dépasser les 100 km/h. Elles pourront atteindre jusqu'à 160 km/h sur les côtes. Près de 1000 sapeurs-pompiers sont mobilisables, assure le préfet de Gironde. Il a par ailleurs annoncé que les établissements scolaires du département resteront fermés demain. Le militaire blessé ce matin au Louvre va bien, assure le ministre de la Défense. Il doit rejoindre ce soir son unité à Pamiers. Un assaillant armé de 2 machettes s'en est pris à des soldats de la force sentinelle déployée au Louvre ce matin. L'homme a été grièvement touché par des tirs de riposte. Cet agresseur serait un Égyptien. Arrivé en France la semaine dernière, son téléphone portable est en cours d'analyse. Le procureur de Paris doit s'exprimer d'ici quelques minutes sur cette affaire. En pleine tourmente, François Fillon poursuit sa campagne. Dans un message sur Facebook ce soir, le candidat de la droite dit comprendre le trouble provoqué par les révélations sur les soupçons d'emploi fictif de sa femme. Mais il promet qu'il tiendra bon. Du côté de l'enquête, le Sénat doit transmettre au parquet financier des documents concernant les emplois des enfants Fillon cette fois. L'équipe de France de tennis est à un point de la qualification en quart de finale de la Coupe Davis. Après les victoires tranquilles de Richard Gasquet et de Gilles Simon, Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert vont tenter de remporter le point décisif lors du double. Ce sera cette nuit à Tokyo.
France Info. 20h-21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et on parle politique, comme souvent dans les informés, ce soir. Et on se posait la question de savoir si finalement, ces meetings électoraux servent encore à quelque chose. Éric Scholl, vous, Courrier International, vous avez les yeux rivés sur la presse étrangère. Ça existe partout encore aujourd'hui en 2017, les
regardez, on vient de suivre une élection américaine. On a bien vu le rôle très important des meetings. Les deux, Hillary Clinton, mais quand je dis les deux, c'est plus que ça. Bernie Sanders a fait des meetings et c'est là où on s'est rendu compte du succès de Bernie Sanders. C'est par des meetings de plus en plus importants avec une foule. Donc moi, évidemment, je pense, on le voit à l'étranger comme on le voit en France, que le meeting reste un lieu pour faire de la politique extrêmement important, ce qui n'empêche pas qu'on c'est puisse pas avoir les nouveaux moyens. Mais absolument pas. Ça permet aussi aux candidats quand même de faire une sorte de tour de chauffe, de tester des slogans. Ils l'ont tous fait. Vous voyez, vous avez regardez Benoît Hamon. On a bien vu d'ailleurs. Ça permet aussi de sentir quand même une température, à la fois la température des militants. militants. Et moi, je pense que c'est très important, à un moment, de s'exprimer auprès de ces militants. Et ce qui n'empêche pas qu'on puisse avoir une expression après beaucoup plus globale. Mais pour les dirigeants des candidats, il faut savoir s'exprimer évidemment auprès des militants. Les militants l'attendent. C'est eux quand même ensuite qui vont relayer, qui vont essayer de faire venir des voix. Donc je pense que le meeting électoral reste un endroit vraiment très important et qui n'est pas du tout ringard.
Et vous avez un autre exemple en Grande-Bretagne avec Jérémy Corbyn, parce que celui-ci avait commencé avec des petites salles, puis elles se sont remplies de plus en plus. Le parti, grâce au meeting, quand il a choisi d'aller à gauche, le Labour Party est passé de 100 000 membres à 650 000 membres. C'est maintenant le plus grand parti de masse de gauche qui existe en Europe. Mmh. Et donc Jérémy Corbyn, lui aussi, a eu le succès des meetings. Donc si vous mettez Bernie Sanders, vous mettez Jérémy Corbyn. Vous regardez aussi les très grandes réunions de Tsipras en faisait également.
Ils n'ont pas gagné aussi.
Ça passe.
Mais choisis de quelle manière.
Comment Corbyn va gagner.
Un meeting, c'est une grande messe dans la liturgie politique, c'est ça. Il faut rassembler les fidèles de temps en temps.
Oui, et puis il y a l'importance du verbe. On aime ça en France. On aime décortiquer les discours, les écouter. Regardez ce qui nous est resté de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Alors, plein de choses, mais il nous est resté le fameux meeting de la porte de Versailles. Qu'est-ce qui nous est resté de la campagne de François Hollande en 2012, la campagne victorieuse, c'est le discours du Bourget.
Qui était son problème après pendant tout le quinquennat d'ailleurs.
Bien sûr, mais là,
le contenu était tellement bon que les gens s'en souviennent.
On parle du moment. C'était intéressant, c'était une température très intéressante, par exemple, d'aller voir le meeting de François Fillon à la Villette. Moi, j'y suis allée la semaine dernière pour voir qui était là. Alors, c'était le même sociotype que des personnes visiblement aisées de plus de 65 ans, c'était l'électorat de François Fillon, mais n'empêche qu'il fallait discuter avec eux pour comprendre ce qui était en train de se passer dans leur tête. Bon. Donc moi, pour moi, c'est mon métier, mais moi j'adore aller au meeting parce qu'il y a une température, il y a quelque chose qui monte, quelque chose qui descend, on sent la salle réagir, c'est très important de voir, elle réagit d'ailleurs pas obligatoirement aux mêmes choses que nous, donc c'est intéressant de se confronter, de se mettre dans la tête des électeurs de droite.
Conclusion, Guillaume Jubin, vous comprenez rien à la politique, non, vous dites que ce meeting s'est dépassé.
Non, parce que je crois qu'en fait, effectivement, là on parle de communication interne, finalement, entre dans un parti, je nie pas que ça puisse servir, c'est un peu comme dans une entreprise, si on prend des sujets que vous connaissez bien, mais la communication interne ou la communication externe, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez en interne, vous parlez à tout le monde, puisque tous les médias sociaux, l'ensemble des médias d'information continue vous retransmettent en temps réel, donc pourquoi ne pas choisir de parler à tous les Français? Et d'ailleurs, on voit bien le problème des Français avec la politique, il est quand même celui-là, c'est-à-dire que le discrédit même des partis politiques tient quand même beaucoup à cet entre-soi militant qui fait qu'il y a une demande d'un parler direct avec les Français, c'est tout.
On demande aussi à un homme politique de se confronter à la foule, de se confronter à la houle, c'est ce qu'on voit à l'Assemblée nationale en façon beaucoup plus resserrée.
Gérard Filoche nous disait tout à l'heure que finalement, ce qui est aussi important, c'est que les télés, les radios vont reprendre la petite phrase grâce au meeting.
Bien sûr, mais il avait tout à fait raison. Aussi pour faire, ça existe encore pour faire la phrase du 20h, pour les images, évidemment. Donc on sait que ce qui va se passer dans un meeting va certainement être pris, mais je pense que ça va bien au-delà. Et encore une fois, il y a aussi ce qu'on peut ressentir pour, non seulement pour le candidat, mais pour son entourage, ce qu'ils peuvent ressentir dans une salle. C'est-à-dire l'accueil de certaines propositions, la façon dont... Et puis, ça se sent si on a une foule qui est plutôt complètement acquise, ou parfois qui est quand même, il va falloir convaincre, parce qu'il y a des meetings qui sont... Il y a des meetings qui sont
plus difficiles. En général, les gens qui viennent quand même.
Prenez les meetings de Manuel Valls quand la candidate,
ça a été plus compliqué. Quand vous êtes orateur de meeting...
Vous avez fait des meetings,
mais plein. Vous sentez la salle, vous ne faites pas que lui parler.
Il y a un rapport physique, je crois.
Vous pouvez avoir un discours construit pendant une heure. Moi, je sais comment on réagit. Dans tel coin de la salle ou dans tel autre coin, les gens, comment ils adhèrent ou ils adhèrent pas. Je sais même ce sur quoi il faut que j'insiste quand je sens que la salle ne vibre pas. Et donc, on apprend quand on fait soi-même un meeting. Et
vous
on reçoit quelque chose
ça.
Des gens, bien entendu. Un peu habitué depuis
de longues années. Vous avez vu des dizaines et des dizaines de meetings. Vous avez l'impression qu'il y a ce lien entre la salle et l'orateur?
Oui, alors déjà, c'est très physique un meeting, puisque le candidat, en général, rentre par, quand c'est des grands meetings, il rentre dans la foule, donc il se fait toucher.
Comme les boxeurs,
fait...
un peu. Là,
oui, ouais. Alors il y a tout un jeu. Mais il n'y a pas seulement Nicolas Sarkozy. Regardez, c'est ce qui s'est passé aussi avec François Fillon, qui devient de plus en plus sarkoziste, d'ailleurs, dans sa communication, dans sa façon de gérer ses déplacements avec sa femme, etc. Il est dans une période très très sarkozyste. On retrouve exactement les mêmes images. Regardez le meeting de la Villette. Mais le comment? Je trouve que c'est un moment effectivement où ils se confrontent à la foule. C'est un moment où ils sentent la foule. C'est un moment où ils sentent quand ça va pas. Je prends l'exemple de François Fillon. Moi, je l'ai beaucoup suivi pour la campagne de la présidence de l'UMP en 2012. Les gens étaient là, ils assistaient à des conférences sur la politique internationale. C'était complètement déconnecté par rapport à ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire la campagne pour la présidence de l'UMP. Et on sentait, on savait qu'il y avait un problème. Donc c'est important pour nous aussi, journalistes, d'aller écouter, d'aller dans les meetings du début jusqu'à la fin pour voir ce qui est en train de se passer.
Guillaume, moi, je me rappelle du dernier meeting de Nicolas Sarkozy en 2012, là où il était au Trocadéro, qui était rempli avec un monde
alors,
fou.
Le dernier, c'était au Sable d'Olonne.
Ou l'avant-dernier, en tous les cas.
Avec les drapeaux.
Ça l'a pas empêché de perdre. Je pense que ça, justement, ça crée un prisme qui fait croire à beaucoup de choses, y compris, on voit bien, François Fillon, il est victime de ça. Il a construit une stature dans des meetings, une personnalité autour de qualité, puis finalement, il se retrouve confronté au tribunal de l'opinion qui ne sont plus ses militants. Donc, moi, je continue à penser que c'est bien pour les militants, mais c'est pas bien pour gagner une élection avec les Français.
Éric Scholz, ce qu'il faut remarquer quand même, c'est que ces meetings, et c'est ce que nous racontait Soizic, finalement, sont aujourd'hui aussi construit comme des shows télévisés.
Et ça fait partie des grands messes qui resteront dans l'histoire de la politique. Moi, j'ai le souvenir de quelques meetings auxquels j'ai assisté de tous les côtés. Celui de Mitterrand de l'entre-deux-tours au Bourget, précisément, en 1988. Celui de Chirac en 1995, en janvier 95, au moment où ça va très mal pour le tournant, si vous voulez, à la porte de Versailles.
Et là, il y avait sa famille. Et là, vous sentez le tournant, honnêtement?
Vous dites, il va peut-être se passer quelque chose, mais c'est des moments, c'est souvent à partir de meetings où on a vu des tournants. Regardez le meeting de Nicolas Sarkozy en 2007 à la porte de Versailles, c'est le 14 ou le 15 janvier de 2007. C'est le démarrage de sa campagne. Donc c'est un moment important. Évidemment, c'est totalement organisé et c'est fait pour être comme ça, comme a été le Bourget pour François Hollande. C'est grandes liturgies politiques.
Vous avez qu'à regarder les derniers meetings là avant les primaires. Le dernier, entre les deux tours, vous avez Manuel Valls, il est à Alfortville. Il est chez lui. Il y a 500 personnes. Vous avez Benoît Hamon, j'y étais. Il est à Montreuil, il y a 3000 personnes. Ça vous indique immédiatement toute la réalité, toute la vie qui est en train de se dérouler.
Mais il faut quand même se méfier un peu.
Je suis un habitué, je regarde. Il fait des progrès, c'est pas paternel, ce que je dis. C'est qu'il est porté, parce qu'il y a de plus en plus de monde. Donc vous finissez par ne plus tenir un discours abstrait, mais vous finissez par parler aux gens comme s'ils étaient à côté de vous. Ce qui est le plus grand progrès d'un orateur. C'est-à-dire quand il cesse d'aligner des phrases pour pouvoir avoir des interlocuteurs, même devant 3000, 10000, 20000, 30000 personnes, comme si vous les connaissiez au café du coin. Et l'orateur se transcende dans ces moments-là.
Alors ça peut aller loin, regardez Macron.
Regardez
aussi, souvenez-vous de Ségolène Royal,
Macron, c'est le prédicateur évangéliste américain.
Est-ce qu'il y a des différences entre les meetings de gauche et les meetings de droite?
Ça dépend. J'ai envie de vous dire quel meeting de droite, parce que je suis allée au meeting d'Alain Juppé, par exemple, au Zénith. C'était pas du tout la même population qu'on pouvait retrouver au meeting de François Fillon à la Villette quelques mois plus tard. Donc il y a plusieurs. Et puis c'est pas non plus les mêmes personnes qu'au meeting de Nicolas Sarkozy, où finalement, si on regarde bien. Pendant la campagne de 2012, on retrouvait souvent les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'il y avait des sarkozistes qui faisaient pas le Tour de France, mais quasiment. Donc c'était des publics très construits. Donc c'est très, déjà il y a plusieurs choses différentes. Après les meetings de gauche, on est plus dans la musique, dans la détente, on est moins dans quelque chose on est moins dans une grande messe,
j'imagine vous avez fait plus de meetings de gauche que de meetings de droite.
Oui, mais bien sûr, ça c'est sûr. Mais je vais vous dire, par exemple, les meetings que je préfère, c'est ceux qui sont avec un mouvement de masse. J'ai le plus grand souvenir du meeting du Havre, par exemple, le 7 juin dernier. Le Havre a fait 4 manifestations avec 30 000 personnes et une avec 35 000. Puis c'était à la fin. Il y avait une fanfare. Les gens étaient portés, pouvaient pas rentrer dans la salle.
C'était pour vous, tout ça?
Mais on était 8, 10 avec tous les syndicats à pouvoir parler à ce meeting. Et vous savez, c'est au Havre, ils avaient fait un truc avec sur le port, avec les containers. Puis ils avaient fait 17 mètres de haut avec un point tendu sur les dockers. Donc vous aviez une atmosphère. Et c'était un des plus beaux meetings. Je me souviens de toutes les dernières années. C'était un moment d'apogée de la lutte contre la loi El Khomri. D'ailleurs, c'est ce qui s'est traduit dans le vote pour Benoît Hamon et contre Valls.
D'ailleurs, il y a eu un meeting terrible qu'on a vu récemment. C'est le meeting du gouvernement. Vous vous souvenez, la fameuse mouvement « Et haut la gauche » lancé par, par Stéphane Le Foll. Et donc il y avait, un meeting à Bercy. Et alors ce meeting, il disait tout, parce que moi ça m'est jamais arrivé, pour entrer dans le meeting, il fallait commencer à sortir sa carte d'identité ou sa carte de presse déjà trois rues avant, et puis c'était par cercle concentrique, c'était très difficile d'accéder au cœur du meeting. Et c'était vraiment un meeting sous surveillance policière comme j'en avais jamais vu. Et donc c'était effectivement le premier signe, enfin en tout cas pas le premier, mais un des signes de ce qui est en train de se passer.
Guillaume Jubin, je rebondis sur ce que disait Gérard Filoche. Il parle de fou, de 30 000 personnes.
Il a raison sur l'émotion qui se dégage, sur le fait que ça crée
une dynamique. Est-ce que c'est pas à cause de ça aussi que les politiques pètent parfois les plombs ? Parce que quand vous vous retrouvez en pop star comme ça, vous êtes totalement détaché de la réalité.
Surtout, on voit bien, l'exemple de François Fillon tout à l'heure est parlant. C'est-à-dire qu'il continue à parler à ses militants, alors qu'aujourd'hui, l'élection face à laquelle il est, c'est une élection face aux Français. Donc c'est le sujet, il est encore dans une logique de primaire. Et c'est la même que ces primaires, peut-être, on pourrait faire d'ailleurs, de mettre tout le monde dans cette espèce d'entonnoir qui consiste à parler aux militants et pas aux Français. Et d'ailleurs, on voit bien, finalement, Emmanuel Macron ou même Jean-Luc Mélenchon, qui sont pas dans des logiques justement de parti, ils font en sorte, et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon parle de réunion publique, j'ai vu, il parle pas de meeting, Emmanuel Macron parle de réunion publique, il parle pas de meeting, ils essayent de ratisser très large, j'allais dire, pour être un peu plus loin que leurs propres militants. Et ce qui semble être aujourd'hui peut-être plus en phase avec certains des Français.
La différence, c'est que Mélenchon, il y a du fond. Est-ce que Macron, vous avez une mélopée, et à la fin, quand les gens sortent, ils ne savent pas quel est le niveau du SMIC.
Gérard Filoche, est-ce que quand on est sur une scène comme ça, avec des milliers de personnes qui applaudissent, qui crient votre nom, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même de perdre le sens des réalités ?
Jamais, au contraire, vous l'apprenez davantage des gens. C'est l'échange qui vous donne du peps, de quoi continuer. Si vous voulez faire 160 meetings contre la loi El Khomri, vous avez intérêt à sentir que quand vous parlez.
Il vous donne de l'énergie, mais vous sortez, vous avez l'impression que tout le monde pense comme vous.
Vous faites pas Nice, Charleville et Niort en trois jours, et donc il faut avoir du peps. Le peps, il vient du fait que les gens viennent vous écouter et que vous avez le sentiment de les aider, pas de leur dire des phrases générales. Et dans le compte meeting, ce qui compte, par exemple, en droit du travail, c'est le contenu. Si vous ne parlez pas concrètement du droit du licenciement, du chapitre 1, de la convention collective, de ce qu'était le droit du travail depuis 1906 jusqu'à nos jours, les gens ne vous écoutent pas, mais dès que vous commencez à le faire, ils disent « j'apprends quelque chose, et donc je comprends que cette loi est contre-révolutionnaire, je comprends ce qu'est la nature du code du travail, je ne le savais pas avant, mais là je suis en train de progresser.
Bon, » Et sur la forme, alors Éric Scholl, on parlait du meeting de Jean-Luc Mélenchon, double meeting en hologramme à Lyon et dans la banlieue parisienne,
C'est bien, non ?
C'est une carte de communication qui joue depuis maintenant 3-4 mois, 5 mois, et sur ce côté modernité. Bon, c'est un choix qu'il a fait. Pourquoi pas ? En tout cas, c'est assez cohérent avec cette carte de communication sur YouTube, etc. Sur le meeting, quand même. Moi, je voulais revenir sur ce qu'on a vu aux États-Unis. Je l'ai dit, quand on voit que jusqu'à la veille des élections, on a Hillary Clinton et on a Donald Trump qui multiplient les dernières 24 heures avant les élections, ils ont fait chacun 3 ou 4 meetings. Donald Trump prenait un avion, il atterrissait, il faisait son meeting quasiment sur le tarmac de l'aéroport et il repartait faire un autre endroit. S'il fait tout ça, c'est qu'ils sentent bien qu'il faut le faire. Et pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas que les voir à la télé, on ne peut pas que les voir aussi sur les réseaux sociaux ou sur Facebook. Et à un moment, il y a ce besoin de ce contact physique. Et je pense que...
Mais justement, contact physique, l'hologramme n'aura pas de contact physique.
La curiosité va s'ajouter.
Aux États-Unis, il y a très peu de... Ce que font beaucoup les politiques français, c'est-à-dire aller sur le terrain, la rencontre. Les politiques américains le font très peu. C'est vrai qu'ils font des meetings, mais ils vont très peu sur le terrain. Vous n'avez pas vu ni Hillary Clinton, dit Donald Trump, aller serrer la main dans des commerces à des...
Bernie Sanders.
Non, mais une des raisons, parce qu'on a regardé, nous, à courrier de près, pourquoi les raisons de la victoire de Donald Trump, et on s'est aperçu qu'il est allé ratisser dans tous ces endroits qui avaient été désertés par le Parti démocrate, ces endroits... qui ont subi toute la crise de l'industrie, etc., et qui finalement ne représentaient pas. Alors, si Donald Trump n'était pas allé, lui, il a envoyé ses représentants sur le terrain. C'est pas des meetings, c'est faire campagne sur le terrain.
Sois-y, Kemener. Moi, j'en reviens à mon idée d'hologramme, parce que ça me... J'ai l'impression de la guerre des étoiles avec le maître Yoda qui va apparaître comme ça. Ça peut marcher, parce que là, on ne voit pas véritablement le candidat. Il va y avoir une curiosité, mais
oui, c'est ça. Non, mais je pense que c'est la curiosité. Et puis, ça va être un match incroyable ce week-end. Donc, on va avoir, vous l'aviez dit tout à l'heure,
c'est Marine à Lyon que ça
Le Pen,
se passe, hein.
Marine Le Pen à Lyon, Emmanuel Macron à Lyon, Jean-Luc Mélenchon à Lyon, Benoît Hamon à Paris et Jean-Luc Mélenchon bis à Aubervilliers, si je me souviens bien. Et donc, on a un moment très fort. Et lui, il a besoin de se faire entendre, Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a un petit genou qui est en train de lui passer devant le nez, donc il faut qu'il réagisse. Donc ça tombe plutôt bien pour lui d'avoir cet effet de curiosité autour de son meeting, parce que sinon tout le monde va écouter Hamon, il va pas l'écouter lui.
C'est l'investiture de Benoît Hamon dimanche matin.
Voilà,
absolument.
Donc il y a un risque pour lui de se faire effacer. Donc il faut qu'il soit présent, et il le sera de cette façon-là.
Gérard Filoche, il joue gros Jean-Luc Mélenchon là en ce moment?
Je pense que celui qui refusera l'unité perdra. Vous m'entendez bien?
Oui, mais enfin, une fois que vous avez dit, vous n'avez rien dit. Lequel des deux doit se...
Mais ils sont condamnés à s'entendre, comme on dit.
D'accord, mais le système présidentiel, c'est qu'à la fin, il y a un candidat.
Il y a une sorte d'obligation de... Oui, mais le casting, ils vont le discuter entre eux. Moi, je ne peux pas le faire à leur place. Mais il y a une obligation de résultat. S'il y a plusieurs candidats de la gauche, on perd. On ne sera même pas au deuxième tour. Par conséquent, il faut qu'il y ait une entente, et c'est possible. On n'a qu'à regarder les programmes, même... Jean-Luc Mélenchon a dit l'autre jour qu'ils étaient voisines, les idées. Et j'écoutais tout à l'heure, j'étais avec Yannick Jadot et puis Benoît Hamon, il n'y a même pas une heure, c'était voisin aussi. Donc pourquoi avoir trois candidats et ne pas s'entendre? Et ensuite, on s'entendra aussi sur les législatives. Parce que sur les législatives, il y a un besoin de ne pas avoir cinq ou six candidats de gauche par circonscription, sinon on perd tous.
Bon, mais écoutez, les législatives, on va y
arriver. Parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui met la condition des législatives pour s'entendre sur... Mais évidemment qu'il faut s'entendre. Éric, on ne peut pas avoir un président sans majorité. Il faut bien que la majorité abroge la loi El Khomri.
Je poserai quand même ma question. Parce
allez-y,
que
j'y tiens.
Est-ce que Jean-Luc Mélenchon joue gros ce week-end, étant donné qu'il est maintenant nettement distancé par Benoît Hamon, un peu la surprise générale d'ailleurs.
Voilà, ça a été, c'est quand même la conséquence. Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même le perdant de la primaire socialiste. C'est-à-dire qu'il était quand même plutôt vers 14, 15, 16% dans les sondages, si on peut faire confiance aux sondages. Et là, on a vu qu'il a très sévèrement décroché, parce qu'il y a une dynamique qui s'est mise en route pour Benoît Hamon. On va voir, et peut-être que maintenant, il va rentrer dans cette période où il va essayer de revenir auprès de Benoît Hamon. Mais il y a quand même maintenant un écart de 5, 6 points.
Donc, il vaut mieux qu'ils s'entendent vite les uns les autres. Je veux dire, Benoît, Yannick et Jean-Luc. Il faut qu'ils s'entendent, il faut un gouvernement qui soit Hamon, Jadot, Pierre Laurent et Mélenchon. Les grandes heures de la gauche sont devant nous, là. On peut refaire un Front populaire. On peut refaire une unité de la gauche et une gauche plurielle. C'est le moment de surprendre tout le monde. Fillon est en déconfiture.
La droite,
Gérard
Filoche, il est 20h40. On est sur France Info. C'est un métronome, c'est une pendule. Et à 20h40, c'est l'info présentée par Diane Verschit.
L'agresseur de militaires au Louvre à Paris ce matin serait un Égyptien arrivé en France la semaine dernière en provenance de Dubaï. C'est ce que révèlent les premiers éléments de l'enquête. On attend les précisions ce soir du procureur de Paris. L'agresseur s'en est pris à une patrouille de l'opération Sentinelle. Il avait deux machettes sur lui, dont une a servi à l'attaque. L'un des soldats a été légèrement touché à la tête. L'ouest de la France menacé par trois tempêtes. Une femme a été tuée par l'effondrement d'un mur cet après-midi à Nantes. Une violente rafale de vent serait à l'origine du drame. 14 départements sont en alerte orange pour vent violent. Dès demain matin, 3 sont en vigilance rouge. La Charente-Maritime et la Gironde. La Gironde également concernée par une alerte vague submersion. François Hollande appelle Donald Trump à ne pas se mêler des affaires européennes. Depuis le sommet européen de Malte, le président de la République juge inacceptable les pressions de son homologue américain. François Hollande, agacé par les propos de Donald Trump sur le Brexit, ce dernier l'avait qualifié de chose merveilleuse. Le chef de l'État estime qu'entre partenaires, il doit y avoir du respect. Une situation de cauchemar, ce sont les termes employés par la plupart des personnels humanitaires à bord des bateaux qui sont venus en aide aujourd'hui à plus de 1300 migrants en Méditerranée. 13 embarcations de fortune au large de la Libye. Au total, depuis mercredi, plus de 3050 migrants ont été secourus. La Ligue 1 de football, début de la 23e journée. Metz reçoit Marseille ce soir. Les Messins sont avant-derniers du classement. Les Marseillais 6e. Coup d'envoi à 20h45.
France Info. 20h, 21h. Les informés. Olivier Delagarde.
Et Diane Fergit nous le disait à l'instant, François Molins, procureur de la République de Paris, doit s'exprimer d'une minute à l'autre. On va suivre sa conférence de presse sur France Info. Il va s'exprimer en direct du Palais de Justice de Paris. François Molins, c'est lui qui a la main sur toutes les affaires de terrorisme qui concernent la France. Et on attend qu'il revienne évidemment sur cette affaire. Un homme a attaqué à la machette ce matin des militaires à l'entrée de la galerie du Carrousel du Louvre au cri d'Allah Akbar, avant d'être grièvement blessé par l'un des soldats. Bernard Cazeneuve a immédiatement réagi à l'annonce de cette nouvelle. Il était à Bayeux, écoutez.
Le fonctionnaire qui était en charge d'assurer la sécurité du musée du Louvre a été agressé, visiblement dans le cadre d'une tentative d'attaque à caractère terroriste. Il faut être prudent, mais j'ai cette information. Et je veux dire, ici à Bayeux, au moment où ces événements viennent de se produire, à quel point je suis toujours le cœur plein de reconnaissance et de gratitude pour les policiers, pour les gendarmes, pour les militaires qui, dans un contexte de menace qui demeure extrêmement élevé dans notre pays, assurent la sécurité de la nation et la protection des Français.
Éric Scholl, il faut donc s'habituer à vivre avec ce type de menace maintenant au quotidien ?
Malheureusement, oui, on le savait, on a tendance rapidement à l'oublier et on est très vite repris par cette tragédie qu'est le terrorisme. Et voilà, tous les deux mois, tous les trois mois, on voit quelque chose d'horrible. C'était en Allemagne, c'est aujourd'hui en France. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vivre avec le terrorisme, ça veut dire aussi pouvoir essayer de se protéger. Aujourd'hui, on a deux dispositifs qui sont, il y a l'état d'urgence et il va d'ailleurs falloir quand même se poser la question jusqu'à quand on maintient l'état d'urgence. Vous savez qu'aujourd'hui, il a été renouvelé. Enfin, ça sera une des premières décisions à prendre du prochain président de la République, puisque l'état d'urgence est en cours jusque à peu près 15 jours ou 3 semaines après les élections. Et il y a aussi le plan Sentinelle qui prévoit quand même, donc c'est quand même une ponction, si je puis dire, sur l'armée, puisque ça représente 10 000 hommes qui sont affectés à la sécurité par le plan Sentinelle. Donc là aussi, il va falloir réfléchir si ces moyens qui ont été mis en place doivent perdurer, s'il faut imaginer un nouveau dispositif. En tout cas, on voit à quel point ils peuvent être quand même utiles. On l'a vu aujourd'hui, ce matin. Mais le débat, notamment sur l'état d'urgence, est très loin d'être terminé. Supprimer l'état d'urgence au mois de mai, mais pour le remplacer par quoi ? Je vous rappelle que Benoît Hamon est pour la suppression de l'état d'urgence.
Oui. Guillaume Jubin, je me faisais cette remarque, on est quand même très loin dans cette attaque des attaques du 11 septembre 2001 et même du 13 novembre 2015, des attaques coordonnées. Là, finalement, on a quelqu'un qui prend une machette et qui va s'attaquer à un soldat. Où commence le terrorisme ? Où s'arrête l'acte d'un illuminé ?
Il commence dans un contexte particulier, je crois que c'est surtout ça le sujet, c'est-à-dire qu'on est dans une période où on sait qu'il y a un risque terroriste important, élevé, et donc tout événement qui survient est pris à la hauteur d'un événement grave, voire terroriste immédiatement. D'une certaine manière, il y a une espèce d'obligation pour les pouvoirs publics à prendre en compte de façon très grave tout événement qui intervient. Quelque part, c'est ce qu'on attend aussi du gouvernement. On peut bien comprendre que le ministre de l'Intérieur, immédiatement, se mobilise sur ce sujet.
Terrorisme, c'est un mot très fort et c'est pas
un communiquant
que vous êtes.
Oui, mais s'il ne le faisait pas, que dirait-on ? Que dirait-on ? Donc, il joue son rôle, peut-être parfois de façon un peu trop rapide, on peut l'estimer, mais d'une certaine manière, c'est une obligation que les responsables politiques ont à l'égard de la population. Et je pense que d'une certaine manière, s'il y a un sujet sur lequel il peut y avoir encore, je dirais, un crédit qui est accordé au pouvoir public et aux responsables politiques, c'est sûrement sur des sujets comme celui-là qui sont des sujets.
Je vous interromps, Guillaume Jubin, parce que François Molins vient de pénétrer dans la salle du Palais de Justice où va avoir lieu cette conférence de presse. Le procureur de la République de Paris va donc s'exprime donc en direct. C'est lui qui dirige l'enquête après l'attaque du Carrousel du Louvre. Il va nous donner les détails de cette attaque sur la personnalité de l'agresseur. On l'écoute.
Bon, mesdames, messieurs, je voudrais avant tout saluer le professionnalisme et la qualité de la réaction des militaires de l'opération Sentinelle, militaires appartenant au 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers. Leur intervention, en effet, a mis fin à une action terroriste et permis l'interpellation de son auteur, dont tout indique qu'il était très déterminé. Cette attaque terroriste est intervenue 2 ans, jour pour jour, après l'attaque au couteau de 3 militaires de l'opération Sentinelle à Nice, qui se trouvaient en faction devant un centre communautaire juif. Attentat commis, je vous le rappelle, par un homme qui avait été aussitôt arrêté et qui est à ce jour toujours incarcéré. Concernant l'attaque survenue ce matin, au vu du mode opératoire et des propos tenus par l'agresseur, la section antiterroriste de mon parquet a ouvert une enquête en flagrance des chefs de tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et d'associations de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes. L'enquête a été confiée à la Direction régionale de la police judiciaire, brigade criminelle, section antiterroriste, et à la Direction générale de la sécurité intérieure. J'en viens donc au déroulement précis des faits. Ce matin, vers 9h, 9h50, alors que 4 militaires de l'opération Sentinelle se trouvaient en patrouille au sous-sol du carrousel du Louvre, dans une zone en amont du point de contrôle des sacs, un individu est arrivé par le grand escalier côté Tuileries. Il était porteur d'un sac à dos, vêtu d'un t-shirt noir avec une tête de mort, armé d'une machette dans chaque main, bras levés et plié derrière la tête. Apercevant les militaires, il s'est précipité sur eux en criant « Allahu Akbar ». Il a frappé à la tête le premier militaire qui le repoussait. Il s'est précipité alors sur un second militaire qui est tombé au sol et a tenté de lui porter des coups de machette alors que celui-ci se trouvait toujours au sol. Ce militaire l'a repoussé à coups de pied. L'auteur s'est alors dirigé à nouveau vers le militaire au sol qui a tiré une première fois vers la partie basse de l'abdomen, ce qui n'a pas arrêté l'auteur, si bien que le soldat a riposté à nouveau à 3 reprises. L'assaillant est tombé au sol, très grièvement blessé. Il a été transporté à l'hôpital. Son pronostic vital est très engagé. Il ressort des éléments recueillis par les enquêteurs que les militaires ont scrupuleusement respecté la doctrine d'emploi d'usage des armes consistant, après sommation, en un premier tir dans le bas-ventre destiné à neutraliser, sans le tuer, l'assaillant. Un premier militaire a été légèrement blessé au niveau du cuir chevelu par un coup de machette. Il a été transporté à l'hôpital et s'est vu prescrire 10 jours d'interruption totale de travail. Les constatations réalisées sur place ont permis de confirmer qu'un seul FAMAS avait fait feu. Un agent de sécurité, témoin oculaire de l'agression, a corroboré le déroulement des faits tels que décrits par les militaires. Ce témoin a ainsi indiqué qu'il avait vu l'assaillant foncer sur les militaires et frapper l'un d'eux avec une machette, tout en précisant que l'assaillant ne s'était écroulé qu'à la 3e ou 4e détonation. L'auteur des faits n'a été trouvé porteur d'aucun papier d'identité. Au cours des constatations, les enquêteurs ont saisi, outre les 2 machettes, dites machettes militaires, il s'agit de machettes de 40 cm chacune, un sac à dos contenant des bombes aérosols de peinture, une veste abandonnée par l'auteur en haut des marches à l'intérieur de laquelle a été découvert un téléphone portable. Si à ce stade, l'identité de l'auteur des faits n'est pas formellement établie, les premières investigations réalisées à partir du téléphone portable et les recherches réalisées sur VisaBio, qui, je vous le rappelle, est la version française du système d'information sur les visas, base de données biométriques développée à l'échelle européenne, comprenant notamment la photographie numérisée et les empreintes digitales des demandeurs de visa, ces recherches ont permis de cibler un individu âgé de 29 ans et de nationalité égyptienne. Il est intéressant de noter que la photographie enregistrée sur VisaBio correspond à celle de l'auteur de l'attaque. Cet individu ne ressort pas comme étant connu du fichier automatisé des empreintes digitales français. Il n'était donc pas connu à ce titre pour avoir commis sur notre sol des infractions. Les premiers éléments de l'enquête que je peux vous dévoiler permettent de retracer son parcours et je voudrais à ce stade souligner la très grande rapidité et efficacité dont ont fait preuve depuis ce matin les services de police judiciaire saisis, en l'occurrence la section antiterroriste de la brigade criminelle et la direction générale de la sécurité intérieure. Ces éléments sont les suivants. Le 30 octobre 2016, l'assaillant, résident aux Émirats arabes unis, a déposé une demande de visa touristique au consulat de France à Dubaï, visa qu'il se voyait délivré le 8 novembre 2016 pour une durée, pour un séjour d'un mois, du 20 janvier au 20 février 2017. Le 26 janvier 2017, il est arrivé à Paris Charles de Gaulle en provenance de Dubaï, son vol retour étant prévu le 5 février et a emménagé le jour même pour une semaine, moyennant un montant de 1 700 euros, un appartement situé dans le 8e arrondissement. Le 27 janvier, donc le lendemain, il a loué un véhicule jusqu'au 5 février 2017 dans une agence de location. Ce véhicule a été retrouvé il y a quelques instants dans le 8e arrondissement. Le 28 janvier 2017, à 17h31 très précisément, c'est l'achat des deux machettes à l'armurerie Arme Bastille. Les deux machettes présentant un numéro de série, les enquêteurs ont pu remonter jusqu'à leur achat, dont on sait qu'il a été réalisé par un individu se présentant comme égyptien pour un montant de 680 euros payés en liquide le samedi 28 janvier 2017 à 17h31, donc dans un magasin du 11e arrondissement de Paris, à proximité de la place de la Bastille. La perquisition effectuée dans le logement qui était occupé, donc appartement loué par l'intéressé, a amené la découverte de plusieurs éléments. D'abord une somme de 965 euros, deux étuis correspondant aux deux machettes utilisées par l'assaillant, la facture d'achat des deux machettes, un pull correspondant en tout point à celui porté le jour de l'achat des deux machettes, ainsi qu'il ressort de l'exploitation des vidéosurveillances par les services enquêteurs, un iPad, plusieurs cartes prépayées, des vêtements pour environ une semaine, une batterie autonome de téléphone, le passeport égyptien de l'intéressé qui supporte notamment des visas pour l'Arabie saoudite ainsi que deux visas pour la Turquie en 2015 et 2016, un permis de résident émirati, un permis de conduire et une carte bancaire des Émirats. Les investigations qui ne font bien sûr que débuter se poursuivent et se poursuivront tant en France qu'à l'étranger dans le cadre de la coopération pénale internationale pour déterminer le parcours mais aussi les motivations de l'auteur et découvrir notamment s'il a agi seul, spontanément, ou au contraire s'il a agi sur instruction. Je ne peux vous en dire davantage aujourd'hui afin de préserver l'efficacité des investigations à venir, mais vous serez bien entendu, évidemment, tenu informé autant que possible de l'évolution de l'enquête dans les prochains jours. Je vous remercie.
Voilà pour cette conférence de presse de François Molins, procureur de la République de Paris, que vous avez pu suivre donc en direct sur France Info. Sozic Kemener, on réagit à chaud hein, dans les informés. On a entendu François Molins, une attaque préméditée, certes, mais tout de même assez frustre. Hein. C'est ce que nous décrit finalement François Molins, quelqu'un qui a acheté deux machettes en arrivant à Paris pour attaquer des militaires un petit peu au hasard dans le carrousel de Louvre, quoi.
Oui, et puis mais en même temps, on nous décrit quelqu'un qui visiblement a été soutenu d'une façon ou d'une autre, puisque il peut louer un appartement pour un prix quand même de 1700 euros dans le 8e arrondissement de Paris. Il peut aussi louer une voiture. Il peut acheter pour 680 euros d'armes, en l'occurrence deux machettes à Bastille. Il sait où aller, il sait quoi faire. Donc il y a toujours ce mélange à la fois d'attaques. On a l'impression que c'est l'attaque du coin de la rue. En fait, pas du tout. C'est quelqu'un qui avait prévu regarder les visas, regarder d'où il vient. Pour permettre d'enlever toute traçabilité. Il vient pas directement d'Égypte, il est passé par un autre pays. Donc il y a ce mélange-là, je trouve.
Et Eric Scholl, Dubaï, les Émirats Arabes Unis, c'est pas une provenance très naturelle pour...
Oui, mais regardez aussi la Turquie. Donc il est passé par la Turquie. On sait que la Turquie a permis beaucoup d'entrées sur la Syrie. Bon, on va voir. Ça, il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, on est dans une période où le terrorisme est très loin, enfin, où la France est en guerre. Elle est présente sur plusieurs conflits à l'extérieur. Il y a ce conflit contre l'État islamique et on sait très bien que l'État islamique est en train de perdre du terrain et que des combattants qui étaient soit d'ailleurs ici en France ou en Occident et qui sont là-bas sont tentés de rentrer et peuvent aujourd'hui faire des attentats. Donc on est dans une période quand même de grosse incertitude, on n'est pas du tout terminé.
De grosses incertitudes, évidemment, et on va continuer sur France Info à suivre cette actualité. Il me reste à vous remercier tous les quatre, Gérard Filoche, membre du bureau national du PS, Guillaume Jubin, communicant de la société Tilder, Éric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International, à la une cette semaine.
Un numéro en réalité augmentée.
La révolution des transports. Et Soazic Kemener, rédactrice en chef de service politique. Donc de Marianne, qu'est-ce qu'il y a à la une de Marianne?
Eh bien, comment l'après Fillon a commencé?